L'éperon barré de la pointe du Châtelet à l'Île-Dieu, emblématique de la proto-histoire, deuxième et premier millénaire avant l'ère chrétienne de la Vendée, ce site fortifié littoral s'inscrit à l'inventaire des monuments historiques depuis 1986, présente notamment les vestiges d'un imposant rempart de terre et de pierre de 200 mètres de longueur et de plus de 3 mètres de hauteur. Une opération de prospection archéologique magnétique a eu lieu du 9 au 12 septembre dernier. Thomas Vigneault, archéologue et topographe au service patrimoine et archéologie du conseil départemental de la Vendée.
La prospection magnétique, c'est une méthode qui consiste à faire des mesures des déformations du champ magnétique terrestre. Et ces déformations, donc du champ magnétique local, et ces déformations, elles sont liées aux caractéristiques magnétiques des roches du proche sous-sol. Donc par exemple, quand on a des pierres qu'on chauffait, de la terre cuite, ça va réagir positivement. Et pareillement, quand on a des fossés, en général, ça se traduit par une anomalie positive du champ magnétique. Et quand on a des empirements ou des murs, ça se traduit par une anomalie négative. Donc quand on fait des mesures répétées, régulièrement réparties dans l'espace, on produit une carte qui nous permet d'avoir des indices quant au caractère d'occupation du site, les formes de l'occupation, est-ce qu'il y a des fossés, est-ce qu'il y a des murs. Enfin voilà, ça nous permet d'avoir une idée précise des caractéristiques de l'occupation du site pour après envisager des fouilles proprement dites sur des fenêtres bien particulières qui présenteraient un intérêt scientifique particulier.
Les résultats et conclusions de cette prospection archéologique sont connus directement ou il faut faire des analyses?
Alors là, en fait, pour l'instant, sur ce qui est envisagé, vraiment, le gros du travail, ça va être de dresser une série de cartes. Puisqu'on va, il n'y a pas que la prospection magnétique qui a été mise en œuvre, il y a plusieurs études aussi complémentaires, donc prospection électrique, puisque là, on fait passer du courant. Alors là, on fait passer du courant entre deux électrodes, et on regarde dans quelle mesure le sol, le proche sous-sol, conduit le courant. Donc quand c'est résistant, ça veut dire qu'il y a du caillou ou de la pierre, on est sur le rocher par exemple, et par contre quand le courant passe bien, ça veut dire qu'il y a du sol meuble, donc ça peut être un fossé notamment, donc c'est ce qu'on recherche. Donc toutes ces méthodes, on les confronte les unes les autres, et on établit des cartes, dont l'analyse après, voilà, en fait le gros du travail c'est de produire des cartes. Là c'est vraiment ça l'essentiel de ce travail de prospection cette année. Alors l'idée c'est d'avoir une cartographie très précise des secteurs à fort enjeu archéologique. Donc on a le rempart et derrière le rempart finalement on ne connaît pas grand chose. Donc il y a quelques indices qui nous permettent de penser qu'il y a des enclos fossoyés. Donc là les cartes en fait elles sont en cours de traitement, en cours même de production. Mais l'idée c'est de serrer vraiment d'établir une liste de fenêtres qui présentent un intérêt pour faire des sondages ponctuels. Puisqu'on est aussi sur un site qui est classé, qui est protégé, et heureusement qu'il l'est d'ailleurs, donc Habitat Natura 2000, site protégé au titre du Code de l'environnement, donc ça n'aurait pas de sens de faire des grands décapages mécaniques comme on le voit sur certains autres chantiers de fouilles. Donc là évidemment il faut essayer de concilier la recherche archéologique sur ce site bien particulier avec la nécessaire sauvegarde des habitats naturels. Donc l'idée c'est vraiment de cibler au mieux sur des fenêtres qui présentent un intérêt. Donc après, je dirais que l'année prochaine ou dans les années à venir, on va essayer de déterminer des priorités en fait, pour faire des sondages. Alors il y a 2 ans, on a fait un bilan, donc on avait eu une phase terrain, donc avec un relevé topographique. On avait d'ailleurs sollicité le concours de la mairie pour faire des photos par cerf-volant. Donc, ce qui nous a permis d'avoir une restitution 3D assez précise d'une grande partie du site, à peu près 2 à 3 hectares. Le site fait à peu près une dizaine d'hectares. Donc on a quand même une bonne idée de la topographie du site. Donc ça, c'était le premier volet. Le second volet, c'était une étude d'immobilier, puisque en gros, il y a à peu près 200 tessons qui ont été ramassés depuis les débuts des années 2000 par différents prospecteurs, mais ça n'avait pas été étudié. Donc là, on sait par exemple, grâce à cette étude, que le site est occupé de manière récurrente pendant les 2 derniers millénaires avant notre ère. Donc ça correspond à l'âge du bronze et à l'âge du fer, donc jusqu'à l'époque des Gaulois. Puis à l'époque romaine, le site est manifestement abandonné pour ne plus être réoccupé. Donc ça, on ne savait pas encore ces éléments chronologiques, ça nous échappait. Donc là, on sait où on met les pieds d'un point de vue chronologique. Et le troisième volet, c'était la première phase de prospection. Donc on a mis en place une méthode électromagnétique. Donc là, cette méthode-là, elle permet de savoir s'il y a du sol ou si on est plutôt sur le rocher. Donc ça peut être intéressant dans la perspective de programmer des sondages archéologiques, par exemple. Et on avait fait une ébauche de prospection magnétique, mais sur quelques petites fenêtres, puisqu'on n'avait pu explorer que 5% du site. Donc là, cette année, on a exploré pratiquement 3 hectares sur 10, voire 3-4 hectares. Je n'ai pas les chiffres en tête encore et pas encore les cartes sous les yeux. Mais voilà, l'idée, c'est de poursuivre le travail engagé il y a 2 ans, mais avec une approche bien spécifique et plus ciblée.
Ce que tu nous dis, Thomas, c'est que tu vas revenir dans les prochains mois, prochaines années pour faire de nouvelles fouilles.
Alors, pour faire des fouilles, puisque là encore, on n'a pas encore fait de fouilles, on n'a pas, ce sont des, j'insiste bien sur le caractère non intrusif des approches qui sont mises en œuvre, en fait. Hein, là, on ne touche pas le sol. Et là, plus tard, effectivement, l'idée, c'est de, à partir de 2020 et voir les années à venir, ben, en fait, voilà, il y a pour l'instant, la collaboration entre le département et la mairie de Lisle-Lieu se passe très bien. On a un soutien logistique très précieux, ce qui nous permet de travailler dans d'excellentes conditions.
Pour les prochaines fouilles en 2020, tu penses trouver quoi?
Il y a plusieurs secteurs d'intérêt. On soupçonne l'existence d'une entrée en fait là-bas, côté ouest, sur le long du rempart, puisque le site est vraiment ceinturé par un grand rempart, que j'en ai pas parlé, mais la presqu'île du Châtelet, c'est un éperon barré. La presqu'île est naturellement défendue sur 3 côtés par des falaises assez abruptes, et sur le quatrième par un rempart qui fait aujourd'hui. Voilà, il est conservé sur 3 mètres à 3 mètres 50, mais on sait pas où se positionne l'entrée, parce qu'il fallait bien rentrer sur le site. Et traditionnellement, sur les côtes, on observe ça en Bretagne, l'entrée est plutôt située sur l'une des côtes, parce que c'est plus facile à défendre. Et là, on soupçonne l'existence d'une entrée sur l'extrémité plutôt ouest de la presqu'île, enfin du rempart. Donc là, ça pourrait être une des fenêtres qui pourrait être ciblée. Après, on attendra aussi de voir s'il y a des fossés, s'il y a des traces d'occupation avec des éléments qui permettraient d'avoir une idée de la structuration de l'espace sur le site. Donc là, pour essayer typiquement, on essaye de retrouver de la céramique dans les comblements de fossés qui nous permettraient d'avoir une idée de la chronologie de ces enclos, s'il y en a. Mais leur présence n'est pas encore prouvée, quoi. Régulièrement, en fait, le site est quand même soumis à une érosion côtière assez importante. Donc régulièrement, à la faveur de l'érosion des sols, il y a des sondes de céramique qui remontent à la surface. Donc ça, c'est sûr, de la céramique, oui, il y en a, ouais. Et il y a aussi des pièces lithiques, du silex taillé, c'est les deux objets principalement qu'on peut retrouver, ouais.
En 2019, on ne connaît toujours pas les fonctions de ce site.
La fonction du site, ça on l'ignore pour le moment. Et toute la question, c'est de savoir est-ce que le site hébergeait un habitat durable? Alors on peut peut-être en douter, pour l'instant on n'a pas vraiment d'éléments qui permettent de l'affirmer, en plus à plus forte raison parce qu'on n'a pas encore fait de sondage archéo pour valider l'hypothèse. Alors on peut aussi imaginer des sites qui contrôlent le littoral, on sait qu'il y a des produits qui transitent par le site, on a retrouvé à la pointe du Châtelet là, de la céramique, des tessons d'amphores qui contenaient du vin et qui venaient d'Italie, mais ça c'est classique sur les sites de l'âge du fer. Donc est-ce que c'était un site qui servait de relais pour commercialiser les denrées qui voyageaient par mer? Ça, on peut imaginer plein de choses. Pour l'instant, c'est très ouvert, hein, au niveau des hypothèses. On peut aussi se demander si on n'a pas une occupation antérieure à l'âge des métaux. Donc il y a une file de pierre au sud-ouest du site. Et cette file de pierre, moi, elle m'intrigue beaucoup, parce est-ce que c'est un dispositif de barrage? Parce que traditionnellement, cette file de pierre, elle est connue, enfin, depuis les années 80, et traditionnellement, elle a été plutôt interprétée comme un dispositif de fortification antérieur au grand rempart. Mais bon, cette file de pierre, elle pourrait être aussi, moi, elle me fait penser à un alignement un petit peu comme les alignements de menhir ou apparentés. Et est-ce qu'on n'en serait pas plutôt sur un site à caractère symbolique, associé au paysage environnant? Enfin, voilà. Donc, pour l'instant, les questions sont très très nombreuses et n'ont pas encore toutes leurs réponses, loin de là.
Beaucoup de questions, on l'a bien compris. Est-ce qu'on le saura un jour vraiment à quoi servait ce site?
Alors là, je ne vais pas dire non, mais je ne sais pas. Tout dépend de l'ampleur des opérations qui pourraient être conduites. En fait, l'idée, c'est vraiment d'y aller pas à pas, d'abord au travers de méthodes non intrusives. Et la problématique, l'enjeu, c'est vraiment d'obtenir le maximum d'informations en ouvrant le minimum de surface, étant donné les contraintes liées à la protection du site.
Opération menée en collaboration avec le conseil départemental de la Vendée, l'université de La Rochelle, avec le soutien de la commune de Lisle-Dieu.
C'est moi qui suis porteur de projet, donc au titre du département, c'est moi qui suis responsable de l'opération. Mais là, bien évidemment, ce travail est un travail fait en collaboration avec de nombreuses personnes. Bon, le service patrimoine de l'île-lieu, dans un premier temps, bien sûr, qui nous a été d'un grand secours pour faire le bilan des collections archéologiques qui sont conservées aujourd'hui au service patrimoine de l'île-lieu. L'opération qui a lieu cette année, comme celle d'il y a 2 ans, a fait appel aussi à des chercheurs de l'Université de La Rochelle, dont la spécialité, c'est vraiment la prospection géophysique, avec toute une batterie de méthodes possibles. Et donc, voilà, ils interviennent. D'ailleurs, pas mal de fois sur des sites littoraux, parce que ça fait partie de leur thématique de recherche.